êtes sur Radio FM+, fréquence 91, dans l'émission Jardin d'Isis, réalisée par Marie-Agnès Salezada, avec Julien à la technique. J'ai comme invité aujourd'hui sur Radio FM+, donc fréquence 91 à Montpellier, dont on peut écouter les émissions sur radiofmplus.org. On peut également retrouver les émissions sur les podcasts de Radio FM+. Donc j'ai pour invité aujourd'hui Alain Laverne, poète, romancier, nouvelliste. Et je le reçois par rapport à sa poésie, un recueil publié chez Inclinaison, Si la guerre ne meurt, publié en 2022. Alain Laverne, vous avez effectué des études de sociologie, de communication en édition, et vous avez principalement exercé le métier d'enseignant dans les Yvelines. Après diverses tentatives en tant que représentant, formateur en insertion, pigiste, pour le Moniteur, BTP et la Gazette des communes, entre autres, vous écrivez... Vous me dites avec continuité depuis juillet 89, des publications, principalement des romans, un roman jeunesse publié chez Feu Silibris, maison d'édition, trois romans adultes, Je sauverai le monde aux éditions Kiklos en 2009, Web Voyage, édition ELP en 2014 et Présence publié chez Douro édition en 2022. Également en 2022, Si la guerre ne meurt, un recueil de poésie chez Inclinaison. Et bonjour déjà Alain, j'ai oublié
bonjour
de vous saluer.
Bonjour Marie-Agnès, je suis très content d'être dans cette émission et je vous remercie de votre invitation. Effectivement, je publie à peu près tous les 7 ans et par la grâce des éditeurs qui veulent bien me lire, ce qui est assez difficile aujourd'hui, mais voilà.
Parmi les parutions de ces deux dernières années, vous comptez des nouvelles et des poésies publiées dans diverses revues. Pouvez-vous nous parler de certaines revues ou de certaines parutions en revue ?
Alors, évidemment, celle qui me marque le plus pour le moment, c'est la revue Labyrinthe, qui a pris quelques poèmes d'une autre série que celle consacrée à la guerre et qui est une revue qui est payante, donc ce qui m'incite à croire que mes poèmes ont été assez jugés de qualité pour être inclus dans ce genre de revue. Et d'ailleurs, c'est une revue qui est vraiment de qualité, avec des textes tout à fait divers, des nouvelles, des poèmes, etc. Voilà.
Donc, tel que je l'ai cité tout à l'heure, ce sont surtout des romans que vous avez publiés. Et qu'est-ce qui vous a motivé, donc assez récemment, à vous tourner vers la poésie, Alain Laverne ?
Alors, en fait, il faut quand même dire au départ que le roman est aussi de la poésie. Quand vous lisez des auteurs comme Don DeLillo, Lola Lafont, Claude Simon et tant d'autres, vous vous apercevez que le creuset du roman, quelque part, le style, parce que pour moi, le style, c'est le creuset du roman. C'est là où le roman se forge et là où il se nourrit. C'est fait de quelque chose qui est la poésie, c'est-à-dire d'un détour par le langage pour revenir à la réalité. Alors voilà, donc j'étais déjà un peu dans la poésie et j'y suis venu par un hasard géographique qui est le fait que j'ai déménagé en 2016, je suis arrivé à Sète et j'ai découvert les voix vives. Donc je connaissais la poésie classique un petit peu, j'avais picoré les grands auteurs et puis je m'étais intéressé un peu plus parce que quand on est dans la littérature, on va dans tous les aspects de la littérature. Mais là, j'ai découvert la poésie contemporaine, hein, enfin, ce qui est un peu reconnu de par le monde. Et j'ai vu des auteurs tout à fait divers et ça m'a incité à y venir je veux dire, comme quelqu'un qui conduit une deux chevaux et qui tout d'un coup se dit « Et pourquoi j'essaierai pas la Ferrari ?»
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous vient la poésie ? Est-ce que vous installez au bureau pour écrire ou alors ça vient tout à fait spontanément ? Est-ce que vous pouvez vous avez une petite...
En fait, j'ai une sorte de méthode. C'est-à-dire que la poésie, moi j'écris déjà de manière très spontanée. même si la relecture, évidemment, c'est un travail qui sollicite plus la rationalité et la distance. Mais au départ, j'écris de manière spontanée, je mets dans une sorte d'état zen. C'est-à-dire que j'essaye de retrouver le moment où l'esprit est entre la veille et le sommeil. Je prends un peu de repos, je respire, je fais quelques mouvements de Qigong. Et puis voilà, je me mets en état d'absence. Je fais une sorte de lâcher prise, donc. Et c'est à ce moment que mon conscient et mon inconscient savent qu'ils sont prêts pour écrire quelque chose qui touchera à la poésie. Et c'est, j'appuie quelque part, je sollicite le vide intérieur, ou plutôt le creuset intérieur. Et ce creuset intérieur, c'est du langage, parce qu'on est fait de rien d'autre que du langage. Donc quelque part, ce langage, il remonte parce que j'ai lu beaucoup, parce que j'ai parlé beaucoup, parce que j'ai eu des ancêtres. Moi, je considère que la poésie que je fais, moi, elle remonte à des millions d'années. C'est-à-dire que même la moindre tonalité d'une personne qui vous parle peut faire écho à quelqu'un qui a vécu 150 ans avant elle. Toute cette force, toute cette mémoire, toute cette vie du langage, elle traverse les générations. La poésie, c'est notre part d'infini.
Je vous reçois principalement donc autour de ce recueil « Si la guerre ne meurt ». Cela paraît assez évident comme thème d'écriture par rapport à cette histoire vécue pendant l'année 2022, mais quelle a été votre motivation première en rédigeant ces poèmes autour de la guerre, donc cette guerre entre l'Ukraine?
Alors ma motivation première, c'est que je me suis intéressé beaucoup à la guerre d'Ukraine.
Oui.
C'était un peu même de manière un peu obsessionnelle, c'est-à-dire j'ai regardé pendant des semaines des vidéos, des interviews, tout ce qui parlait de cette guerre, parce que je me dis de manière très consciente que c'est un enjeu majeur en termes de géopolitique mondiale, et puis c'est un danger majeur pour la planète, parce que si jamais il y a une guerre nucléaire, ça sera des dizaines de millions de morts à la clé.
On va découvrir quelques-uns de ses poèmes, si vous le voulez bien.
Oui. Alors, le premier poème que je vais vous lire s'appelle « Repose en paix ». Sais-tu où est le pays souverain ? Où est le pays souverain ? Qui connaît le pays souverain ? Pas moi, je marche sans regarder derrière. Pas moi, je regarde les mouettes dessiner le ciel. Pas moi, je creuse mes pétales en espérant l'été. Sais-tu pourquoi les hommes promettent le passé ? Sais-tu pourquoi tant d'hommes croient en la paix ? Sais-tu où est le carrefour qui mène à la paix ? Pas moi, je ne sais qu'écrire entre les mots, pas moi. J'invente des serments que je ne sais pas lire, pas moi. J'ai tué la paix en moi. Sais-tu si les bombes resteront au pays mort ? Sais-tu qui osera jeter les guerriers au pays mort ? Sais-tu s'ils inventent la guerre pour laisser le pays mort en paix ?
Marionnette.
Le maître regarde ses guerriers de tendre plastique. Allez, petits soldats, mon ordre fait chair, mon souffle délivre votre barbarie. Avancez bien droit au carnage salvateur. Ne laissez pas la lumière du doute éteindre votre sacrifice, trahir votre souffle. Apeurez votre sang. Bientôt l'obus, la mitraille, pour l'Ukraine, le bravé, pour la patrie nôtre, mourez. Amen.
Écoute.
Sur la table tremble le train-train, tremblent les murs comme si la ville. Quelque chose dans les regards s'enfonce. Il est temps de guerre, il est temps de peur. Écoute, Europe, écoute. Le prédateur dans ton dos. Les fous et les dévots font messe d'images, serments calculés, haine fléchée. Écoute là-bas, si loin, deux soleils étrangers se brûlent. Écoute, c'est ta faim qu'ils soupèsent. Écoute, c'est ta mort qu'ils rêvent. Trouble train-train, à petits pas, au-dessus du vide, n'avancera pas longtemps si tu ne pèses pas sur les murailles. Si tu n'entends pas le choc fatal de l'acier, si tu n'arraches pas ta conscience du brouillard si tu ne repousses pas les gardes des reins.
Le lien autour du cou.
Il était une fois une guerre tonitruante et foudroyante. S'en allait sur ses chemins sanglants, décimés, posément. Il était deux fois une guerre récurrente et massacrante. S'en allait secouer ses drapeaux troués devant ses monstres désignés. Il était mille fois une guerre épuisante et croissante. S'en allait brandir ses victorieux cadavres devant les victimes exterminées pour les sauver.
Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur, et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs, les conseils du ciel immense, d'Ulysse pur, du nid doré. N'ôte aucune démence du cœur de l'homme effaré. Les carnages, les victoires, voilà notre grand amour. Et les multitudes noires ont pour grelot le tambour. La gloire sous ses chimères et sous ses chars triomphants. Et toutes les pauvres mères et tous les petits enfants. Notre bonheur est farouche, c'est de dire allons mourons, et c'est d'avoir à la bouche la salive des clairons. L'acier, l'huile et bivouac fument, pâle nous nous déchaînons. Les sombres âmes s'allument des canons. Et cela pour des altesses qui vous à peine enterrez se feront des politesses pendant que vous courirez. Et que dans le champ funeste les chacals et les oiseaux iront voir s'il reste de la chair après vos os. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté, et l'on souffle la colère dans notre imbécilité. On pourrait boire aux fontaines, prier dans l'ombre à genoux, aimer, songer sous les chaînes, tuer son frère est plus doux. On se hache, on se harponne, on court par monts et par veaux. L'épouvante se cramponne du poing au crin des chevaux. Et l'aube est là sur la plaine, ah j'admire en vérité qu'on puisse avoir tant de haine quand la louette a chanté. Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur, et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Et l'aube est là sur la plaine, ah j'admire en vérité qu'on puisse avoir tant de haine quand l'alouette a chanté.
Et c'était ce qu'écrivait Victor Hugo. Une musique, un poème mis en musique aux éditions EPM Poésie et Chansons. Au travers des poèmes d'Alain Lavergne, que nous avons comme invité aujourd'hui, c'est la guerre que vous fustigez, mais aussi notre passivité, ce que j'ai ressenti, nos positions pratiquement de spectateurs derrière leurs écrans, Alain Lavergne.
Oui, c'est... Globalement, c'est à peu près ce que j'ai voulu dire, comme je vous le disais, j'ai vécu une période de, en quelque sorte, d'addiction au spectacle et la rumeur de cette guerre. Et je me suis dit qu'il y avait une dissonance profonde entre la guerre réelle et ce que nous en voyons déjà. C'est-à-dire que nous sommes derrière nos écrans et la guerre là-bas est réelle et terrible. Et en fait, nous sommes dans une sorte de double bind, c'est-à-dire de double contrainte. D'un côté, on nous dit « regardez le spectacle qu'on vous offre, regardez la guerre qui est formatée, proposée, emballée par les médias, par les politiciens et autres ». Et d'un autre côté, notre conscience qui est à la fois poétique et rationnelle et qui est profonde et qui est ancienne, si ancienne, elle perçoit la réalité de cette guerre. Elle en sait les échos parce qu'elle a déjà connu la guerre depuis tant de millions d'années. Et donc elle sait réellement quelque part au fond de nous ce qui se passe. Donc nous sommes à la fois, nous savons ce qui se passe et nous savons ce qu'on doit accepter de comprendre. Nous sommes pris là-dedans, et la poésie, c'est le moyen de réconcilier ces visions, de dire ce qui se passe, de dire que nous sommes, qu'il se passe quelque chose d'horrible, et que nous n'en voyons que l'écume qu'on veut bien nous laisser venir.
Nous allons écouter ce poème « Guerre ailleurs ».
Alors, « Guerre ailleurs », la guerre est loin de moi, de moi, la guerre est très loin de moi, la guerre est fatalement loin de moi, la guerre est étrangère à moi, la guerre.
Écran de pleurs.
J'écris le monstre brûlant, j'écris la peine des orphelins, j'écris ce qui ne peut être écrit. Elle dévore, elle broie, elle dévore la guerre. Sauf sur l'écran chaud, sauf pour ces humains polissant les secondes d'horreur, les tombereaux de cadavres. Ils disposent les avatars de la mort. Ils chorégraphient l'horreur, ils inventent le ballet des corps morts. Elle démembre la guerre. Sauf l'écran abonné au pestilentiel, sauf les voix roucoulant sur les charniers, sauf les faces maquillées par la mort lumineuse, sauf les exorcistes paisibles des nuits sans lune. Elle massacre la guerre.
Écran de pleurs. Guerre de mots.
Parler de la guerre. Traditore. Là-bas il y aurait. La bouche s'ouvre sur l'obscène. Le monstre ne sait pas sourire. La lumière éteint l'ombre, les bombes n'explosent pas. La guerre n'existe pas, les mots n'en sont pas forgés. La guerre décharge des vocables exposés, excédés, épuisés. La guerre appelle l'initiale aurore, parfois un être de la plus noire des nuits, des mots inouïs pour éteindre le feu originel. Mage de guerre. Un homme pose près d'un tank. Le tank explose. Un homme passe près d'un tank. L'homme explose. Une vidéo capte l'homme et le tank pulvérisé. À l'écran, un homme fait exploser un tank. À l'écran, un tank fait exploser un homme. Une voix explique l'homme. Une voix explique le tank. Une voix explique l'homme et le tank. Le silence ne peut rien dire.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing.
C'était Nina Simone. Cette guerre, Alain Lavergne en rappelle d'autres, et ces paysages de destruction massive, on va dire, quel que soit le lieu où elle survient. Et là, vous avez écrit un poème, « La nuit vient sur le chemin de Damas ».
Oui, c'est, ça aussi, c'est un poème, on peut dire, transgénérationnel. Parce que quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai pensé tout de suite à ma mère qui lisait la Bible quand elle était fatiguée, qu'elle doutait, que la vie lui pesait. Et je me souviens de ce passage qu'elle m'avait lu il y a très très longtemps, où on voyait Saul sur le chemin de Damas et qui tout d'un coup avait une révélation sous le soleil implacable. Donc le poème que j'ai écrit, que je vais vous lire, s'appelle « La nuit vient sur le chemin de Damas ». On ne sait pas, on ne sait rien, nulle carte ni biseauté, sauf la vie. La guerre ne raye que les vies, brisées, arrachées, dépeuplées, lointaines ou proches. La guerre ne saigne pas les statistiques, on ne sait pas. On ne sait rien. Quelque chose est mort là-bas. Ici, nous jetons les cadavres dans le flot sombre des images. La guerre est un laser tranchant le faux. Le curseur de l'horreur se fixe tout au fond d'anciennes plaies. Un paysan ukrainien arraché à la vie marmotte les vérités fantômes. On ne sait pas. On ne sait rien. Les micros écoutent le bruit des talonnettes. Les images dessinent à la chaîne. Les tils l'espiègle. Un dernier moment du bris, Bordeaux. Finis ton verre, mon frère. Demain, nous ne nous reconnaîtrons plus.
Et ce dernier poème, dans ce dernier poème, vous essayez d'imaginer un avenir après toutes ces haines qui se seront confrontées au travers de ce conflit, de cette guerre entre Ukrainiens et Russes.
Oui, c'est une... C'est une haine qui vient de si loin, c'est une haine qui est, comment dire, c'est une figure de l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire que elle aborde à la fois le passé, l'ignoble passé, le merveilleux passé de l'humanité, et la rupture qu'elle doit faire pour se lancer vers un avenir. Et donc, toujours pareil, dans ce moment où l'humanité excède la raison, qui peut mieux dire ce qu'elle est, ce qui se passe, ce qui nous attend que la poésie ?
Avenir.
Après les oiseaux mécaniques aux ailes asservies, après les parades premières du Titan et des télémètres, après les sépultures inaugurales, après les frontières basculées, après les entrefilés de sang nouveau, après les crescendo du carnage, après l'exactionnel, après l'impunitaire, après les exterminatueurs, après les frelateurs de barbarie, les moissons repoussées ressusciteraient les paysans, les exterminés remonteraient des abysses effacés, les parlementeurs retrouveraient les vérités dernières, les roses desséchées dessineraient des cœurs, les fantômes pardonneraient aux fantômes.
Merci Alain Laverne pour ce regard, ces poèmes, qu'il fallait les écrire. Et là, vous avez écrit ce matin un texte qui vient de sortir, tout juste.
Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça vient de sortir. Je l'ai écrit donc ce matin, après ce moment de zen dont je vous ai parlé, qui est une sorte d'avancée dans le vide sur une ficelle qui nous mène à l'avenir de mon langage. Et alors, c'est dans une autre série qui s'appelle provisoirement d'écrire, avec un tiret entre d'écrire, parce que je me suis dit qu'il faut creuser dans la poésie pour qu'elle veuille dire quelque chose et qu'elle s'écarte de ce flot monomaniaque de la publicité, par exemple. Voilà. Donc ça s'appelle « Au bout du comptoir ». Ce verre qui boit au fond du comptoir, près de l'entrée de la nuit, il m'en souvient le goût. Il m'en souvient qu'il disait « Recommence à chercher ma transparence ». À Montauban, à Paris, à Athènes, le vin tache les tables de glyphes et les dormeurs et les buveurs sur leurs grêles pattes d'avenir tremblent et boivent en rond de tables désordonnées, bientôt ensemble séparés. J'ai séparé combien de verres dans ma vie, plus qu'il n'en faudrait pour croire l'horizon mouillé de mes larmes. L'ivrogne refait le monde d'une main, de l'autre renvoie sa règle, et voilà qu'il se prépare déjà à compter ses verres en fil au fond de comptoir disparu.
Merci Alain. Alors, comment nous procurer votre recueil, Alain Laverne ? Est-ce possible ? Dites-nous.
Alors, vous pouvez le commander directement aux éditions Inclinaison. Pour la modique somme de 4 euros, vous aurez un joli petit cadeau, je pense. J'espère. C'est à vous de voir.
Et merci pour cette interview. J'ai eu plaisir à vous recevoir et j'ai reçu ce recueil tel un plaidoyer pour la paix. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Un engagement définitivement antimilitariste. C'est comme ça que je l'ai ressenti.
Oui, merci Marie-Agnès de m'avoir reçu. Ça a été un vrai moment de bonheur et de joie de dire ce qu'on est, de ce qu'on fait. Qui se confondent, puisque quand ça fait tellement longtemps, avec tant d'intensité, l'expression rejoint l'être. Et voilà, donc, la guerre, évidemment, c'est à proscrire. La guerre, c'est l'avenir perdu de l'humanité.
Que se passe-t-il ? n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi.